RT Cool. La radio. School.
Salut chers auditeurs,
c'est Dark Vador
et Luc sur RT Cool.
Tu sais à quoi on reconnaît mon slip?
Je ne sais pas.
Grâce à son côté obscur. Elle était drôle, non?
Au revoir, c'était Eunice et Eva. Que la force soit avec vous.
Mandelieu, la Napoule.
Istanbul.
Risoul.
Frioul.
Liverpool.
Banjul.
Aknoul.
La Bourboule.
Toul.
Blackpool.
Séoul.
Des endroits, il y en a une foule.
Sur RT Cool.
Salut les auditeurs!
Salut Chloé!
Salut Alix!
J'ai appris que tu avais vécu quelques années à Madagascar.
Oui, c'est vrai, c'était tellement bien.
Peux-tu nous parler de son histoire?
Bien sûr! Les premiers habitants de Madagascar sont arrivés sur l'île il y a 2000 ans. Ils étaient pour la plupart indonésiens ou avaient des origines mixtes indonésiennes et africaines. Les commerçants arabes sont arrivés plus tard, aux alentours de l'an 800, lorsque les marchands ont commencé à faire le commerce le long de la côte nord. Leur monnaie est l'ariary et leur capitale est Antananarive. Et toi, Alix, tu connais des choses sur Madagascar?
Oui, mais que les bases. Le capitaine portugais Diego Dias est le premier Européen à voir Madagascar. Il a découvert l'île le 10 août 1500, alors que le vent l'avait détourné de sa route vers l'Inde. Il a donné à l'île le nom de l'île Saint-Laurent. Plus tard, dans les années 1500, les Portugais, les Français, les Hollandais et les Anglais ont tenté d'établir des comptoirs commerciaux à Madagascar. Mais toutes ces tentatives ont échoué à cause des conditions difficiles et de la résistance des guerriers malgaches.
Tu appelles ça des bases ?
Je ne pensais pas que j'en connaissais autant sur ce pays.
Les Européens ont pour la première fois pris pied à Madagascar à la fin des années 1600, alors que la côte de l'île était contrôlée par des pirates.
Ces pirates utilisaient Madagascar comme une base pour attaquer les navires transportant des biens en provenance d'Inde vers l'Europe.
Dans les années 1700, les Français ont tenté d'établir des bases militaires sur la côte est et devenue une fois sans succès.
Au début du 19e siècle, les Français ne contrôlaient que l'île Sainte-Marie.
En 1883, la France envahit Madagascar. En 1896, son contrôle s'étendait sur la totalité de l'île, qui devint une colonie française. La France exploitait le bois et les épices exotiques de l'île, comme la vanille.
Les Malgaches se soulevèrent à deux reprises contre les Français, en 1918 et en 1947, mais le pays n'obtient son indépendance que le 26 juin 1960.
En 1975, Didier Rasika prit le contrôle du pays. Il régagna en dictateur sur Madagascar jusqu'en 1991, date à laquelle il fut renversé sur son contexte de crise économique.
Il accéda peu après à la présidence et gouverna jusqu'à une défaite contestée aux élections en 2001.
Le nouveau président, Marc Ravalomanana, a pris de démocratiser le pays. Ravalomanana, qui a débuté en vendant du yaourt dans les rues à l'arrière de sa bicyclette, a fait fortune dans les affaires et devenu l'homme le plus riche de Madagascar. En 2005, il était toujours président et la situation économique ne cesse de s'améliorer.
Tu penses qu'on en a dit assez?
Largement. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous à Madagascar.
Nos sources sont
un dictionnaire Larousse,
nos cerveaux et Wikipédia.
Bye!
Salut les auditeurs!
Aujourd'hui, on se retrouve pour la bonne idée sur
RT Cool. Bon Mohamed, c'est quoi ton idée à la noix?
Bah tu vois,
La bonne idée à la noix, c'est comment enlever les marques d'usure sur un meuble.
Ah ouais? Et comment on fait ça, hein, monsieur?
Eh bah tu vois, monsieur, avec tes idées à la noix, on prend une noix, mais juste l'intérieur, le truc que tu manges, Lucas. Et puis, tu frottes sur l'usure.
Bah j'avais raison, c'est bien une idée à la noix. Bientôt, en tournée à l'Olympia, le 29 et 30 avril. Réservez vos places dès maintenant.
T'es sérieux, là? On n'est pas des présentateurs TV.
Salut, à la prochaine.
Salut, salut, c'est Julie.
Et Mathieu pour le perso histo de cette semaine.
Aujourd'hui, nous n'allons pas en faire un nouveau.
Nous allons encore parler de Louis-Napoléon Bonaparte.
Nous allons raconter ce qu'Amalia et Clémentine n'ont pas dit la semaine dernière.
Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, dit Louis-Napoléon Bonaparte, puis Napoléon III, est né à Paris le 20 avril 1808.
Il est le premier président de la République française, élu le 10 décembre 1848 au suffrage universel masculin, avant d'être proclamé empereur des Français le 2 décembre 1852 sous le nom de Napoléon III.
Exilé après la chute de l'Empire, conspirateur avec son frère aîné pour l'unité italienne, il devient héritier présomptif du trône impérial après les morts successives de son frère aîné Napoléon Louis en 1831 et du duc de Reichstadt, Napoléon II, roi de Rome, en 1832.
Ses premières tentatives de coup d'État mal préparées, Boulogne-Strasbourg, échouent. Il est condamné à l'emprisonnement au fort d'Âme. Mais il profite des suites de la Révolution de 1848 pour se faire élire représentant du peuple, puis président de la République.
Son coup d'État du 2 décembre 1851 met fin à la Deuxième République et lui permet l'année suivante de restaurer l'Empire à son profit.
Face à l'opposition des républicains, des libéraux de Thiers, de certains monarchistes et des catholiques,
il donne à son pouvoir un caractère autoritaire qui s'atténue après 1859 pour laisser place, progressivement, à un empire libéral.
La philosophie politique qu'il met en place et qu'il a présentée dans ses idées napoléoniennes et dans l'extinction du périsme en 1844
est une synthèse d'un bonapartisme mêlé à du romantisme, du libéralisme autoritaire et du socialisme utopique.
Le règne de cet admirateur de la modernité britannique est marqué par un développement industriel, économique et financier sensible.
Porté par une forte croissance mondiale qui illustre la transformation de Paris sous l'autorité du préfet Haussmann.
Sa politique extérieure vise à restaurer la puissance française en Europe et dans le monde.
Il rompt l'isolement diplomatique voulu au congrès de Vienne par trois puissances de la Sainte Alliance, son entente avec la Grande-Bretagne lors de la guerre de Crimée contre la Russie, son soutien aux mouvements nationaux, en particulier lors de l'unité italienne contre l'Empire d'Autriche, et ses diverses opérations outre-mer, parfois en coalition avec la Grande-Bretagne, permettent l'agrandissement du territoire, Nice, Savoie, ainsi qu'une expansion coloniale et commerciale.
Elle provoque cependant l'hostilité de la Prusse et subit un échec au Mexique. La fin de son régime est scellée à l'issue du piège de Delpech, d'Ems et de la bataille de Sedan, dans le 2 septembre 1870 lors de la guerre franco-prussienne.
Le 4 septembre 1870, la République est proclamée. Napoléon III part en exil en Angleterre où il meurt en janvier 1773.
On espère que vous avez appris plus de choses sur Napoléon III. En tout cas, nous oui. À la semaine prochaine pour un nouveau personnage historique.
Le moment des sciences.
Salut les auditeurs, vous connaissez la tablette tactile ? On va vous en parler.
La première tablette grand public remonte à septembre 1989.
Elle se nomme la GridPad, elle a été conçue par Gluid Systems Corporation
et produite par Samsung.
En mars 1993, PenPad Amstrad sort son premier assistant personnel à écran tactile, le PDA 600.
En août 1993, la firme américaine
Apple sort l'Apple Newton,
assistante personnelle à écran tactile sans clavier et équipée d'un logiciel reconnaissant de l'écriture manuscrite.
La première véritable tablette tactile a été lancée par Apple en 2010. Lucas, en fait, on peut faire quoi avec ?
Je vais te dire ce qu'on peut faire avec. Elle permet d'accéder à des contenus multimédia tels que la télévision et la navigation sur le web. Il est possible d'installer des applications via une boutique en ligne.
C'est en quelque sorte un mini ordinateur portable.
Oui, et sa diagonale mesure entre 5,1 et 10,1 pouces.
Soit entre 12,954 et 25,654 cm.
Nos sources sont Wikipédia,
la tablette tactile.net et Futura Science.
Salut, c'était Lucas et Johan sur votre radio préférée.
Maintenant, on va jouer à Clash of Clans sur notre tablette tactile.
Avia on abaisse.
Once upon a time.
Isha.
Elle a oublié.
Kanyamakan.
Il était une fois.
La phrase de la semaine.
Salut la compagnie, c'est
Capucine et
Emric. Aujourd'hui, nous sommes là pour la phrase de la semaine.
Emric, tu fais quoi comme sport en club ?
Je ne fais pas de sport en club, mais peut-être que tu en pratiques un ?
Oui, je pratique le handball au club d'ici Paris Andes. Et j'ai une petite phrase pour les auditeurs à dire en italien. C'est « Les joueuses françaises ont joué contre le Danemark et elles ont gagné ».
Vas-y, je t'écoute, ça donne quoi ?
Ça donne « I giocatori francesi hanno giocato contro la Danimarca e hanno vinto ».
C'est génial, en plus tu parles bien et tu as un bon accent, il faut exagérer en italien. Dans 10 jours, nous serons en vacances et je pourrai passer du bon temps avec mes grands-parents.
Tiens, est-ce que tu pourrais me la dire en anglais ?
Oui, bien sûr. In 10 days, we will be in holidays and I will spend good time with my grandparents.
C'est génial, merci Emric.
Bon, on doit vous laisser.
Salut tout le monde !
Le coin du musicien.
Salut, c'est Lucas da Silva.
Et Paul sur RT Cool. Aujourd'hui...
Pour le coin du musicien,
nous allons vous parler d'un très grand pianiste et compositeur.
Ludwig van Beethoven. Il est né à Bonn,
en Allemagne,
le 17 décembre 1770.
Son père, qui est lui-même musicien, lui enseigne rapidement la musique.
Ainsi, Ludwig devient rapidement un pianiste et compositeur hors pair.
Il rencontre ainsi d'autres grands noms de la musique comme
Joseph Haydn
ou Wolfgang Amadeus Mozart.
Malheureusement,
à partir de 1796,
Beethoven devient progressivement sourd, mais
au lieu de renoncer à la musique comme il l'avait envisagé,
il affronte le destin et réussit à composer
des chefs-d'œuvre comme, évidemment, la 9e symphonie. Beethoven meurt le 26 mars 1827 à Vienne,
en Autriche.
Il est considéré comme l'un des plus grands compositeurs de l'histoire.
Paul, je crois que nous avons oublié un autre morceau très célèbre de Beethoven.
Tu veux parler de la lettre à Élise, un de ses plus grands succès ?
Oui, tu peux me la jouer s'il te plaît ?
Oui, il n'y a pas de problème.
Stop, arrête ça tout de suite. Là, tu joues la sonate au clair de lune de Beethoven.
Ah oui, c'est vrai, je me suis trompée.
Thank you.
Je trouve que ce morceau est très joli.
Moi aussi, mais Paul, qui est Jean-Sébastien Bach? J'ai entendu ça quelque part.
Ah, ça c'est une autre histoire. Au revoir et à la semaine prochaine sur RT Cool.
Salut Inès, qu'est-ce que tu tiens dans la main? On dirait un DVD.
Mais non Bertrand, c'est un disque d'Ultimate.
D'Ulti quoi?
D'Ultimate. Contrairement à son cousin le disque, même s'il s'agit également de lancer un disque, l'Ultimate est un sport collectif. Il y a deux équipes de 7 joueurs qui s'opposent sur un terrain, soit en intérieur, soit en extérieur. En extérieur, on peut pratiquer l'Ultimate sur l'herbe ou sur la plage. En intérieur, il est pratiqué sur un terrain de handball et dans ce cas, on joue à 5 joueurs. Et toi Bertrand, tu connais des choses?
Oui, je sais qu'il n'y a pas d'arbitre et chaque joueur a la responsabilité de veiller au respect des règles concernant les fautes et les lignes délimitant le terrain. L'objectif est de marquer des points en progressant sur le terrain par des passes vers la zone de but adverse et d'y rattraper le disque. Il existe une version adaptée pour les handicapés, l'Ultimate Fauteuil. Le principe du disque volant était connu bien avant son invention officielle en 1948.
C'est justement en observant des étudiants de l'université Yale s'amuser à se lancer des moules à tarte.
La forme et la qualité des disques varient considérablement, ce qui a une influence sur la distance que peut parcourir le disque.
L'Ultimate est un sport sans contact. Ils ne sont pas autorisés.
Contrairement aux autres sports, l'Ultimate se joue sans arbitre.
Les joueurs sont eux-mêmes responsables du bon déroulement du jeu et ils appellent faute quand une faute est constatée.
Une fois que les joueurs se sont mis d'accord, le jeu peut reprendre.
La fédération de ce sport s'appelle Fédération Flying Disc France. Elle compte désormais 80 clubs et 3080 licenciés.
Cette discipline séduit de plus en plus de licenciés chaque année.
Les championnats du monde auront lieu à Londres du 18 au 25 juin 2016. Nos sources sont...
Wikipédia.
Un dictionnaire Robert Collège.
Au revoir et à la semaine prochaine sur Arte Cool.
C'est Anna
et Aloïs sur RT Cool.
Pour le son mystère,
les gagnants de la semaine dernière sont
Mylène et Philippe Hirsch,
Agathe Catonnet,
Catherine Barthélémy Lebollet,
Antoine Carole,
Nadège Étienne.
Le son de la semaine dernière était celui d'une pièce qui tourne sur elle-même.
Et maintenant, le son de cette semaine est... Si vous avez trouvé, répondez-nous sur...
son-mystère.cm2@laposte.net.
Salut, à la semaine prochaine
sur RT Cool.
RT Cool,
la radio
à school.
At school. School.